Stendhal, Chroniques italiennes, L'abbesse de Castro. Le mélodrame nous a montré si souvent les brigands italiens du XVIe siècle, et tant de gens en ont parlé sans les connaître, que nous en avons maintenant les idées les plus fausses. On peut dire en général que ces brigands furent l'opposition contre les gouvernements atroces qui en Italie succédèrent aux républiques du Moyen-Âge. Le nouveau tyran fut d'ordinaire le citoyen le plus riche de la défunte république, et pour séduire le bas peuple, il ornait la ville d'églises magnifiques et de beaux tableaux. Tels furent les Polentini de Ravenne, les Manfredi de Faenza, les Riario d'Imola, les Cani de Vérone, les Bentivoglio de Bologne, les Visconti de Milan, et enfin les moins belliqueux et les plus hypocrites de tous, les Médicis de Florence. Parmi les historiens de ces petits états, aucun n'a osé raconter les empoisonnements et assassinats sans nombre ordonnés par la peur qui tourmentait ces petits tyrans. Ces braves historiens étaient à leur solde. Considérez que chacun de ces tyrans connaissait personnellement chacun des républicains dont il savait être exécré. Le grand-duc de Toscane, Côme, par exemple, connaissait Strozzi. Que plusieurs de ces tyrans périrent par l'assassinat, et vous comprendrez les haines profondes et les méfiances éternelles qui donnèrent tant d'esprit et de courage aux Italiens du XVIe siècle et tant de génie à leurs artistes. Vous verrez ces passions profondes empêcher la naissance de ce préjugé assez ridicule qu'on appelait l'honneur du temps de Madame de Sévigné, et qui consiste surtout à sacrifier sa vie pour servir le maître dont on est né le sujet et pour plaire aux dames. Au XVIe siècle, l'activité d'un homme et son mérite réel ne pouvaient se montrer en France et conquérir l'admiration que par la bravoure sur le champ de bataille ou dans les duels. Et comme les femmes aiment la bravoure et surtout l'audace, elles devinrent les juges suprêmes du mérite d'un homme. Alors naquit l'esprit de galanterie qui prépara l'anéantissement successif de toutes les passions et même de l'amour au profit de ce tyran cruel auquel nous obéissons tous, la vanité. Les rois protégèrent la vanité et avec grande raison, de là l'empire des rubans. En Italie, un homme se distinguait par tous les genres de mérite, par les grands coups d'épée comme par les découvertes dans les anciens manuscrits. Voyez Pétrarque, l'idole de son temps. Et une femme du XVIe siècle aimait un homme savant en grec autant et plus qu'elle n'eût aimé un homme célèbre par la gravure militaire. Alors on vit les passions et non pas l'habitude de la galanterie. Voilà la grande différence entre l'Italie et la France. Voilà pourquoi l'Italie a vu naître les Raphaël, les Giorgione, les Titiens, les Corrège, tandis que la France produisait tous ces braves capitaines du XVIe siècle, si inconnus aujourd'hui et dont chacun avait tué un si grand nombre d'ennemis. Je demande pardon pour ces rudes vérités. Quoi qu'il en soit, les vengeances atroces et nécessaires des petits tyrans italiens du Moyen-Âge concilièrent aux brigands le cœur des peuples. On haïssait les brigands quand ils volaient des chevaux, du blé, de l'argent, en un mot tout ce qui leur était nécessaire pour vivre. Mais au fond, le cœur des peuples était pour eux, et les filles du village préféraient à tous les autres le jeune garçon qui, une fois dans la vie, avait été forcé d'andare alla macchia, c'est-à-dire de fuir dans les bois et de prendre refuge auprès des brigands à la suite de quelque action trop imprudente. De nos jours encore, tout le monde assurément redoute la rencontre des brigands, mais subissent-ils des châtiments? Chacun les plaint. C'est que ce peuple, si fin, si moqueur, qui rit de tous les écrits publiés sous la censure de ses maîtres, fait sa lecture habituelle de petits poèmes qui racontent avec chaleur la vie des brigands les plus renommés. Ce qu'il trouve d'héroïque dans ces histoires ravit la fibre artiste qui vit toujours dans les basses classes. Et d'ailleurs, il est tellement las des louanges officielles données à certaines gens que tout ce qui n'est pas officiel en ce genre va droit à son cœur. Il faut savoir que le bas peuple en Italie souffre de certaines choses que le voyageur n'apercevrait jamais, vécut-il 10 ans dans le pays. Par exemple, il y a 15 ans, avant que la sagesse des gouvernements n'eût supprimé les brigands, il n'était pas rare de voir certains de leurs exploits punir les iniquités des gouverneurs de petites villes. Ces gouverneurs, magistrats absolus, dont la paie ne s'élève pas à plus de 20 écus par mois, sont naturellement aux ordres de la famille la plus considérable du pays, qui par ce moyen bien simple opprime ses ennemis. Si les brigands ne réussissaient pas toujours à punir ces petits gouverneurs despotes, du moins ils se moquaient d'eux et les bravaient, ce qui n'est pas peu de chose aux yeux de ce peuple spirituel. Un sonnet satirique le console de tous ces maux, et jamais il n'oublia une offense. Voilà une autre différence capitale entre l'italien et le français. Au XVIe siècle, le gouverneur d'un bourg avait-il condamné à mort un pauvre habitant en butte à la haine de la famille prépondérante? Souvent, on voyait les brigands attaquer la prison et essayer de délivrer l'opprimé. De son côté, la famille puissante, ne se fiant pas trop aux 8 ou 10 soldats du gouvernement chargés de garder la prison, levait à ses frais une troupe de soldats temporaires. Ceux-ci, qu'on appelait des bravi, bivouaquaient dans les alentours de la prison et se chargeaient d'escorter jusqu'au lieu du supplice le pauvre diable dont la mort avait été achetée. Si cette famille puissante comptait un jeune homme dans son sein, il se mettait à la tête de ses soldats improvisés. Cet état de la civilisation fait gémir la morale, j'en conviens. De nos jours, on a le duel, l'ennui, et les juges ne se vendent pas. Mais ces usages du XVIe siècle étaient merveilleusement propres à créer des hommes dignes de ce nom. Beaucoup d'historiens, loués encore aujourd'hui par la littérature routinière des académies, ont cherché à dissimuler cet état de choses qui vers 1550 forma de si grands caractères. De leur temps, leurs prudents mensonges furent récompensés par tous les honneurs dont pouvaient disposer les Médicis de Florence, les d'Este et de Ferrare, et les vice-rois de Naples, etc. Un pauvre historien nommé Giannone a voulu soulever un coin du voile, mais comme il n'a osé dire qu'une très petite partie de la vérité, et encore en employant des formes dubitatives et obscures, il est resté fort ennuyeux, ce qui ne l'a pas empêché de mourir en prison à 82 ans, le 7 mars 1758. La première chose à faire lorsqu'on veut connaître l'histoire d'Italie, c'est donc de ne point lire les auteurs généralement approuvés. Nulle part on a mieux connu le prix du mensonge, nulle part il ne fut mieux payé. Les premières histoires qu'on ait écrites en Italie après la grande barbarie du IXe siècle font déjà mention des brigands et en parlent comme s'ils eussent existé de temps immémorial. Voyez le recueil de Muratori. Lorsque, par exemple, pour la félicité publique, pour la justice, pour le bon gouvernement, mais par bonheur pour les arts, les républiques du Moyen-Âge furent opprimées, les républicains les plus énergiques, ceux qui aimaient la liberté plus que la majorité de leurs concitoyens, se réfugièrent dans les bois. Naturellement, le peuple vexé par les Balioni, par les Malatesti, par les Bentivoglio, par les Médicis, etc., aimaient et respectaient leurs ennemis. Les cruautés des petits tyrans qui succédèrent aux premiers usurpateurs Par exemple, les cruautés de Côme, premier grand-duc de Florence, qui faisait assassiner les républicains réfugiés jusque dans Venise, jusque dans Paris, envoyèrent des recrues à ces brigands. Pour ne parler que des temps voisins de ceux où vécut notre héroïne vers l'an 1550, Alphonse Piccolomini, duc de Montemariano, et Marco Sciarra dirigèrent avec succès des bandes armées qui, dans les environs d'Albano, bravaient les soldats du peuple, alors fort braves. La ligne d'opération de ces fameux chefs, que le peuple admire encore, s'étendait depuis le Pô et les marais de Ravenne jusqu'au bois qui alors couvrait le Vésuve. La forêt de la Fagiola, si célèbre par leurs exploits, située à 5 lieues de Rome sur la route de Naples, était le quartier général de Sciarra, qui, sous le pontificat de Grégoire XIII, réunit quelquefois plusieurs milliers de soldats. L'histoire détaillée de cet illustre brigand serait incroyable aux yeux de la génération présente, en ce sens que jamais on ne voudrait comprendre les motifs de ses actes. Il ne fut vaincu qu'en 1592. Lorsqu'il vit ses affaires dans un état désespéré, il traita avec la République de Venise et passa à son service avec ses soldats les plus dévoués ou les plus coupables, comme on voudra. Sur les réclamations du gouvernement romain, Venise, qui avait signé un traité avec Sciarra, le fit assassiner et envoya ses braves soldats défendre l'île de Candie contre les Turcs. Mais la sagesse vénitienne savait bien qu'une peste meurtrière régnait à Candie, et en quelques jours, les 500 soldats que Sciarra avait amenés au service de la République furent réduits à 67. Cette forêt de la Fagiola, dont les arbres gigantesques couvrent un ancien volcan, fut le dernier théâtre des exploits de Marco Sciarra. Tous les voyageurs vous diront que c'était le site le plus magnifique de cette admirable campagne de Rome, dont l'aspect sombre semble fait pour la tragédie. Elle couronne de sa noire verdure les sommets du Monte Albano. C'est à une ancienne éruption volcanique antérieure de bien des siècles à la fondation de Rome que nous devons cette magnifique montagne. À une époque qui a précédé toutes les histoires, elle surgit au milieu de la vaste plaine qui s'étendait jadis entre les Apennins et la mer. Le Monte Cavi, qui s'élève entouré par les sombres ombrages de la Fagiola, en est le point culminant. On l'aperçoit de partout, de Terracine et d'Ostie, comme de Rome et de Tivoli, et c'est la montagne d'Albano, maintenant couverte de palais, qui vers midi termine cet horizon de Rome si célèbre parmi les voyageurs. Un couvent de moines noirs a remplacé, au sommet du Monte Cavi, le temple de Jupiter Férétrien, où les peuples latins venaient sacrifier en commun et resserrer les liens d'une sorte de fédération religieuse. Protégé par l'ombrage de châtaigniers magnifiques, le voyageur parvient en quelques heures aux blocs énormes que présentent les ruines du temple de Jupiter. Mais sous ces ombrages sombres, si délicieux dans ce climat même aujourd'hui, le voyageur regarde avec inquiétude au fond de la forêt. Il a peur des brigands. Arrivé au sommet du Monte Cavi, on allume du feu dans les ruines du temple pour préparer les aliments. De ce point qui domine toute la campagne de Rome, on aperçoit au couchant la mer qui semble à 2 pas, quoique à 3 ou 4 lieues. On distingue les moindres bateaux. Avec la plus faible lunette, on compte les hommes qui passent à Naples sur le bateau à vapeur. De tous les autres côtés, la vue s'étend sur une plaine magnifique qui se termine au levant par l'Apennin au-dessus de Palestrine et au nord par Saint-Pierre et les autres grands édifices de Rome. Le Monte Cavi n'étant pas trop élevé, l'œil distingue les moindres détails de ce pays sublime qui pourrait se passer d'illustrations historiques. Et cependant, chaque bouquet de bois, chaque pan de mur en ruine aperçu dans la plaine ou sur les pentes de la montagne, rappelle une de ces batailles si admirables par le patriotisme et la bravoure que raconte Tite Live. Encore de nos jours, l'on peut suivre, pour arriver aux blocs énormes restes du temple de Jupiter phérétrien et qui servent de mur au jardin des moines noirs, la route triomphale parcourue jadis par les premiers rois de Rome. Elle est pavée de pierres taillées fort régulièrement, et au milieu de la forêt de la Fagiola, on en trouve de longs fragments. Au bord du cratère éteint, qui, rempli maintenant d'une eau limpide, est devenu le joli lac d'Albano, de 5 à 6 000 de tour, si profondément encaissé dans le rocher de lave, était située Albe, la mère de Rome, et que la politique romaine détruisit dès le temps des premiers rois. Toutefois, ces ruines existent encore. Quelques siècles plus tard, à un quart de lieue d'Albe, sur le versant de la montagne qui regarde la mer, s'est élevée Albano, la ville moderne. Mais elle est séparée du lac par un rideau de rochers qui cache le lac à la ville et la ville au lac. Lorsqu'on l'aperçoit de la plaine, ces édifices blancs se détachent sur la verdure noire et profonde de la forêt si chère aux brigands et si souvent nommée, qui couronne de toutes parts la montagne volcanique. Albano, qui compte aujourd'hui 5 ou 6 000 habitants, n'en avait pas 3 000 en 1540, lorsque florissait, dans les premiers rangs de sa noblesse, la puissante famille Campireali, dont nous allons raconter les malheurs. Je traduis cette histoire de 2 manuscrits volumineux, l'un romain et l'autre de Florence. À mon grand péril, j'ai osé reproduire leur style, qui est presque celui de nos vieilles légendes. Le style si fin et si mesuré de l'époque actuelle eût été, ce me semble, trop peu d'accord avec les actions racontées et surtout avec les réflexions des auteurs. Ils écrivaient vers l'an 1598. Je sollicite l'indulgence du lecteur, et pour eux, et pour moi. Après avoir écrit tant d'histoires tragiques, dit l'auteur du manuscrit florentin, je finirai par celle de toutes qui me fait le plus de peine à raconter. Je vais parler de cette fameuse abbesse du couvent de la Visitation à Castro, Hélène de Campireali, dont le procès et la mort donnèrent tant à parler à la haute société de Rome et de l'Italie. Déjà vers 1555, les brigands régnaient dans les environs de Rome, les magistrats étaient vendus aux familles puissantes. En l'année 1572, qui fut celle du procès, Grégoire XIII, bonne compagnie, monta sur le trône de Saint-Pierre. Ce saint pontife réunissait toutes les vertus apostoliques, mais on a pu reprocher quelques faiblesses à son gouvernement civil. Il ne sut ni choisir des juges honnêtes, ni réprimer les brigands. Il s'affligeait des crimes et ne savait pas les punir. Il lui semblait qu'en infligeant la peine de mort, il prenait sur lui une responsabilité terrible. Le résultat de cette manière de voir fut de peupler d'un nombre presque infini de brigands les routes qui conduisent à la vie éternelle. Pour voyager avec quelque sûreté, il fallait être ami des brigands. La forêt de la Fagiola, à cheval sur la route de Naples par Albano, était depuis longtemps le quartier général d'un gouvernement ennemi de celui de sa sainteté, et plusieurs fois Rome fut obligée de traiter, comme de puissance à puissance, avec Marco Sciarra, l'un des rois de la forêt. Ce qui faisait la force de ces brigands, c'est qu'ils étaient aimés des paysans leurs voisins. Cette jolie ville d'Albano, aussi voisine du quartier général des brigands, vit naître en 1542 Hélène de Campirealli. Son père passait pour le patricien le plus riche du pays, et en cette qualité, il avait épousé Victoire Carafa, qui possédait de grands termes dans le royaume de Naples. Je pourrais dire quelques vieillards qui vivent encore et ont fort bien connu Victoire Carafa et sa fille. Victoire fut un modèle de prudence et d'esprit, mais malgré tout son génie, elle ne put prévenir la ruine de sa famille. Chose singulière, les malheurs affreux qui vont former le triste sujet de mon récit ne peuvent, ce me semble, être attribués en particulier à aucun des acteurs que je vais présenter au lecteur. Je vois des malheureux, mais en vérité, je ne puis trouver des coupables. L'extrême beauté et l'âme si tendre de la jeune Hélène étaient deux grands périls pour elle et font l'excuse de Jules Branciforte, son amant, tout comme le manque absolu d'esprit de Monsignor Cittadini, évêque de Castro, peut aussi l'excuser jusqu'à un certain point. Il avait dû son avancement rapide dans la carrière des honneurs ecclésiastiques à l'honnêteté de sa conduite et surtout à la mine la plus noble et à la figure la plus régulièrement belle que l'on put rencontrer. Je trouve écrit de lui qu'on pouvait le voir sans l'aimer. Comme je ne veux flatter personne, je ne dissimulerai point qu'un certain moine saint du couvent de Montecavi, qui souvent avait été surpris dans sa cellule, élevé à plusieurs pieds au-dessus du sol, comme saint Paul, sans que rien d'autre que la grâce divine pût le soutenir dans cette position extraordinaire, avait prédit au seigneur de Campirelli que sa famille s'éteindrait avec lui et qu'il n'aurait que deux enfants qui, tous deux, périraient de mort violente. Ce fut à cause de cette prédiction qu'il ne put trouver à se marier dans le pays et qu'il alla chercher fortune à Naples, où il eut le bonheur de trouver de grands biens et une femme capable, par son génie, de changer sa mauvaise destinée, si toutefois une telle chose eût été possible. Ce seigneur de Campirealli passait pour fort honnête homme et faisait de grandes charités, mais il n'avait nul esprit, ce qui fit que peu à peu il se retira du séjour de Rome et finit par passer presque toute l'année dans son palais d'Albano. Il s'adonnait à la culture de ses terres, situées dans cette plaine si riche qui s'étend entre la ville et la mer. Par les conseils de sa femme, il fit donner l'éducation la plus magnifique à son fils Fabio, jeune homme très fier de sa naissance, et à sa fille Hélène, qui fut un miracle de beauté, ainsi qu'on peut le voir encore par son portrait qui existe dans la collection Farnèse. Depuis que j'ai commencé à écrire son histoire, je suis allé au palais Farnèse pour considérer l'enveloppe mortelle que le ciel avait donnée à cette femme, dont la fatale destinée fit tant de bruit de son temps et occupe même encore la mémoire des hommes. La forme de la tête est un ovale allongé, le front est très grand, les cheveux sont d'un blond foncé. L'air de sa physionomie est plutôt gai. Elle avait de grands yeux, d'une expression profonde, et des sourcils châtains formant un arc parfaitement dessiné. Les lèvres sont fort minces, et l'on dirait que les contours de la bouche ont été dessinés par le fameux peintre Corrège. Considérée au milieu des portraits qui l'entourent à la galerie Farnèse, elle a l'air d'une reine. Il est bien rare que l'air gai soit joint à la majesté. Après avoir passé 8 années entières comme pensionnaire au couvent de la Visitation de la ville de Castro, maintenant détruite, où l'on envoyait dans ce temps-là les filles de la plupart des princes romains, Hélène revint dans sa patrie, mais ne quitta point le couvent sans faire offrande d'un calice magnifique au grand autel de l'église. À peine de retour dans Albano, son père fit venir de Rome, moyennant une pension considérable, le célèbre poète Cecchino, alors fort âgé. Il orna la mémoire d'Hélène des plus beaux vers du divin Virgile, de Pétrarque, de l'Arioste et du Dante, ses fameux élèves. Ici, le traducteur est obligé de passer une longue dissertation sur les diverses parts de gloire que le XVIe siècle faisait à ces grands poètes. Il paraîtrait qu'Hélène savait le latin. Les vers qu'on lui faisait apprendre parlaient d'amour, et d'un amour qui nous semblerait bien ridicule si nous le rencontrions en 1839. Je veux dire, l'amour passionné qui se nourrit de grands sacrifices ne peut subsister qu'environné de mystères et se trouve toujours voisin des plus affreux malheurs. Tel était l'amour que sut inspirer à Hélène, à peine âgée de 17 ans, Jules Branciforte. C'était un de ses voisins, fort pauvre. Il habitait une chétive maison bâtie dans la campagne, à un quart de lieue de la ville, au milieu des ruines d'Albe et sur les bords du précipice de 150 pieds, tapissé de verdure qui entoure le lac. Cette maison, qui touchait aux sombres et magnifiques ombrages de la forêt de la Fagiola, a depuis été démolie lorsqu'on a bâti le couvent de Palazzuola. Ce pauvre jeune homme n'avait pour lui que son air vif et leste et l'insouciance non jouée avec laquelle il supportait sa mauvaise fortune. Tout ce que l'on pouvait dire de mieux en sa faveur, c'est que sa figure était expressive sans être belle. Mais il passait pour avoir bravement combattu sous les ordres du prince Colonna, et parmi ses bravi dans deux ou trois entreprises fort dangereuses. Malgré sa pauvreté, malgré l'absence de beauté, il n'en possédait pas moins, aux yeux de toutes les jeunes filles d'Albano, le cœur qu'il eût été le plus flatteur de conquérir. Bien accueilli partout, Jules Branciforte n'avait eu que des amours faciles, jusqu'au moment où Hélène revint du couvent de Castro. Lorsque, peu après, le grand poète Secchino se transporta de Rome au palais Campirealli pour enseigner les belles lettres à cette jeune fille, Jules, qui le connaissait, lui adressa une pièce de vers latin sur le bonheur qu'avait sa vieillesse de voir de si beaux yeux s'attacher sur les siens et une âme si pure être parfaitement heureuse quand il daignait approuver ses pensées. La jalousie et le dépit des jeunes filles auxquelles Jules faisait attention avant le retour d'Hélène rendirent bientôt inutiles toutes les précautions qu'il employait pour cacher une passion naissante, et j'avouerai que cet amour entre un jeune homme de 22 ans et une fille de 17 fut conduit d'abord d'une façon que la prudence ne saurait approuver. 3 mois ne s'étaient pas écoulés lorsque le seigneur de Campirealli s'aperçut que Jules Branciforte passait trop souvent sous les fenêtres de son palais, que l'on voit encore vers le milieu de la grande rue qui monte vers le lac. La franchise et la rudesse, suite naturelle de la liberté que souffrent les républiques, et l'habitude des passions franches, non encore éprimées par les mœurs de la monarchie, se montrent à découvert dans la première démarche du seigneur de Campirealli. Le jour même où il fut choqué des fréquentes apparitions du jeune Branciforte, il l'apostropha en ces termes. « Comment oses-tu bien passer ainsi sans cesse devant ma maison et lancer des regards impertinents sur les fenêtres de ma fille, toi qui n'as même pas d'habit pour te couvrir. Si je ne craignais que ma démarche ne fût mal interprétée des voisins, je te donnerais 3 sequins d'or et tu irais à Rome acheter une tunique plus convenable. Au moins ma vue et celle de ma fille ne seraient plus si souvent offensées par l'aspect de tes haillons. » Le père d'Hélène exagérait sans doute. Les habits du jeune Branciforte n'étaient point des haillons. Ils étaient faits avec des matériaux fort simples. Mais, quoique fort propres et souvent brossés, il faut avouer que leur aspect annonçait un long usage. Jules eut l'âme si profondément navrée par les reproches du seigneur de Campirealli qu'il ne parut plus de jour devant sa maison. Comme nous l'avons dit, les deux arcades débris d'un aqueduc antique qui servaient de murs principaux à la maison bâtie par le père de Branciforte et par lui laissée à son fils, n'étaient qu'à 500 ou 600 pas d'Albano. Pour descendre de ce lieu élevé à la ville moderne, Jules était obligé de passer devant le palais Campirelli. Hélène remarqua bientôt l'absence de ce jeune homme singulier qui, au dire de ses amis, avait abandonné toute autre relation pour se consacrer en entier au bonheur qu'il semblait trouver à la regarder. Un soir d'été, vers minuit, la fenêtre d'Hélène était ouverte. La jeune fille respirait la brise de mer qui se fait fort bien sentir sur la colline d'Albano, quoique cette ville soit séparée de la mer par une plaine de 3 lieues. La nuit était sombre, le silence profond. On eut entendu tomber une feuille. Hélène, appuyée sur sa fenêtre, pensait peut-être à Jules, lorsqu'il entrevit quelque chose comme l'aile silencieuse d'un oiseau de nuit qui passait doucement tout contre sa fenêtre. Elle se retira effrayée. L'idée ne lui vint point que cet objet pût être représenté par quelque passant. Le second étage du palais où se trouvait sa fenêtre était à plus de 50 pieds de terre. Tout à coup, elle crut reconnaître un bouquet dans cette chose singulière qui, au milieu d'un profond silence, passait et repassait devant la fenêtre sur laquelle elle était appuyée. Son cœur battit avec violence. Ce bouquet lui sembla fixé à l'extrémité de 2 ou 3 de ces cannes, espèce de grands joncs, assez semblables aux bambous qui croissent dans la campagne de Rome et donnent des tiges de 20 à 30 pieds. La faiblesse des cannes et la brise assez forte faisaient que Jules avait quelque difficulté à maintenir son bouquet exactement vis-à-vis la fenêtre où il supposait qu'Hélène pouvait se trouver. Et d'ailleurs, la nuit était tellement sombre que de la rue l'on ne pouvait rien apercevoir à une telle hauteur. Immobile devant sa fenêtre, Hélène était profondément agitée. Prendre ce bouquet, n'était-ce pas un aveu? Elle n'éprouvait d'ailleurs aucun des sentiments qu'une aventure de ce genre ferait naître de nos jours chez une fille de la haute société, préparée à la vie par une belle éducation. Comme son père et son frère, Fabio, étaient dans la maison, sa première pensée fut que le moindre bruit serait suivi d'un coup d'arquebuse dirigé sur Jules. Elle eut pitié du danger que courait ce pauvre jeune homme. Sa seconde pensée fut que, quoiqu'elle le connût encore bien peu, il était pourtant l'être au monde qu'elle aimait le mieux après sa famille. Enfin, après quelques minutes d'hésitation, elle prit le bouquet, et en touchant les fleurs dans l'obscurité profonde, elle sentit qu'un billet était attaché à la tige d'une fleur. Elle courut sur le grand escalier pour lire ce billet à la lueur de la lampe qui veillait devant l'image de la Madone. « Imprudente, se dit-elle, lorsque les premières lignes lui ont fait rougir de bonheur, si l'on me voit, je suis perdue, et ma famille persécutera jamais ce pauvre jeune homme. » Elle revint dans sa chambre et alluma sa lampe. Ce moment fut délicieux pour Jules, qui, honteux de sa démarche, comme pour se cacher même dans la profonde nuit, s'était collé au tronc énorme d'un de ses chênes, vers aux formes bizarres qui existent encore aujourd'hui vis-à-vis le palais Campirelli. Dans sa lettre, Jules racontait, avec la plus parfaite simplicité, la réprimande hurlante qui lui avait été adressée par le père d'Hélène. « Je suis pauvre, il est vrai, continuait-il, et vous vous figurerez difficilement tout l'excès de ma pauvreté. Je n'ai que ma maison que vous avez peut-être remarquée sous les ruines de l'aqueduc d'Albe. Autour de la maison se trouve un jardin que je cultive moi-même et dont les herbes me nourrissent. Je possède encore une vigne qui est à fermer 30 écus par an. Je ne sais en vérité pourquoi je vous aime. Certainement, je ne puis pas vous proposer de venir partager ma misère. Et cependant, si vous ne m'aimez point, la vie n'a plus aucun prix pour moi. Il est inutile de vous dire que je la donnerai 1000 fois pour vous. Et cependant, avant votre retour du couvent, cette vie n'était point infortunée. Au contraire, elle était remplie des rêveries les plus brillantes. Ainsi, je puis dire que la vue du bonheur m'a rendu malheureux. Certes, alors, personne au monde n'eût osé m'adresser les propos dont votre père m'a flétri. Mon poignard m'eût fait prendre justice. Alors, avec mon courage et mes armes, je m'estimais l'égal de tout le monde, rien ne me manquait. Maintenant, tout est bien changé. Je connais la crainte. C'est trop écrire, peut-être me méprisez-vous. Si, au contraire, vous avez quelque pitié de moi, malgré les pauvres habits qui me couvrent, vous remarquerez que tous les soirs, lorsque minuit sonne au couvent des Capucins au sommet de la colline, je suis caché sous le grand chêne, vis-à-vis la fenêtre que je regarde sans cesse, parce que je suppose qu'elle est celle de votre chambre. Si vous ne me méprisez pas comme le fait votre père, jetez-moi une des fleurs du bouquet, mais prenez garde qu'elle ne soit entraînée sur une des corniches ou sur un des balcons de votre palais. Cette lettre fut lue plusieurs fois. Peu à peu, les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. Elle considérait avec attendrissement ce magnifique bouquet dont les fleurs étaient liées avec un fil de soie très fort. Elle essaya d'arracher une fleur, mais ne put en venir à bout. Puis elle fut saisie d'un remords. Parmi les jeunes filles de Rome, arracher une fleur, mutiler d'une façon quelconque un bouquet donné par l'amour, c'est s'exposer à faire mourir cet amour. Elle craignait que Jules ne s'impatientât. Elle courut à sa fenêtre. Mais en y arrivant, elle songea tout à coup qu'elle était trop bien en vue. La lampe remplissait la chambre de lumière. Hélène ne savait plus quel signe elle pouvait se permettre. Il lui semblait qu'il n'en était aucun qui ne dit beaucoup trop. Honteuse, elle rentra dans sa chambre en courant. Mais le temps se passait. Tout à coup, il lui vint une idée qui la jeta dans un trouble inexprimable. Jules allait croire que, comme son père, elle méprisait sa pauvreté. Elle vit un petit échantillon de marbre précieux déposé sur la table. Elle le noua dans son mouchoir et jeta ce mouchoir au pied du chêne vis-à-vis sa fenêtre. Ensuite, elle fit signe qu'on s'éloigna. Elle entendit Jules lui obéir, car en s'en allant, il ne cherchait plus à dérober le bruit de ses pas. Quand il eut atteint le sommet de la ceinture de rochers qui sépare le lac des dernières maisons d'Albano, elle l'entendit chanter les paroles d'amour. Elle lui fit des signes d'adieu, cette fois moins timide, puis se mit à relire sa lettre. Le lendemain et les jours suivants, il y eut des lettres et des entrevues semblables. Mais, comme tout se remarque dans un village italien, et qu'Hélène était de bien loin le parti le plus riche du pays, le seigneur de Campirealli fut averti que tous les soirs, après minuit, on apercevait de la lumière dans la chambre de sa fille. Et, chose bien autrement extraordinaire, la fenêtre était ouverte et même Hélène s'y tenait comme si elle n'eût éprouvé aucune crainte des Inzare, sorte de cousin extrêmement incommode et qui gâte fort les belles soirées de la campagne de Rome. Ici, je dois de nouveau solliciter l'indulgence du lecteur. Lorsque l'on est tenté de connaître les usages des pays étrangers, il faut s'attendre à des idées bien saugrenues, bien différentes des nôtres. Le seigneur de Campirealli prépara son arquebuse et celle de son fils. Le soir, comme 11h15 sonnait, il avertit Fabio, et tous les deux se glissèrent, en faisant le moins de bruit possible, sur un grand balcon de pierre qui se trouvait au premier étage du palais, précisément sous la fenêtre d'Hélène. Les piliers massifs de la balustrade en pierre les mettaient à couvert jusqu'à la ceinture des coups d'arquebuse qu'on pourrait leur tirer du dehors. Minuit sonna. Le père et le fils entendirent bien quelques bruits sous les arbres qui bordaient la rue vis-à-vis leur palais, mais ce qui les remplit d'étonnement, il ne parut pas de lumière à la fenêtre d'Hélène. Cette fille, si simple jusqu'ici et qui semblait un enfant à la vivacité de ses mouvements, avait changé de caractère depuis qu'elle aimait. Elle savait que la moindre prudence compromettrait la vie de son amant. Si un seigneur de l'importance de son père tuait un pauvre homme tel que Jules Branciforte, il en serait quitte pour disparaître pendant 3 mois qu'il irait passer à Naples. Et pendant ce temps, ses amis de Rome arrangeraient l'affaire et tout se terminerait par l'offrande d'une lampe d'argent de quelques centaines d'écus à l'hôtel de la Madone, alors à la mode. Dans le matin, au déjeuner, Hélène avait vu à la physionomie de son père qu'il avait un grand sujet de colère, et à l'air dont il la regardait quand il croyait n'être pas remarqué, elle pensa qu'elle entrait pour beaucoup dans cette colère. Aussitôt, elle alla jeter un peu de poussière sur les bois des 5 arquebuses magnifiques que son père tenait suspendues auprès de son lit. Elle couvrit également d'une légère couche de poussière ses poignards et ses épées. Toute la journée, elle fut d'une gaieté folle. Elle parcourait sans cesse la maison du haut en bas. À chaque instant, elle approchait des fenêtres, bien résolue de faire à Jules un signe négatif si elle avait le bonheur de l'apercevoir. Mais elle n'avait garde. Le pauvre garçon avait été si profondément humilié par l'apostrophe du riche seigneur de Campirealli, que de jour il ne paraissait jamais dans Albano. Le devoir seul l'y amenait le dimanche pour la messe de la paroisse. La mère d'Hélène, qui l'adorait et ne savait lui rien refuser, sortit 3 fois avec elle ce jour-là, mais ce fut en vain. Hélène n'aperçut point Jules. Elle était au désespoir. Que devint-elle lorsque, allant visiter sur le soir les armes de son père, elle vit que 2 arquebuses avaient été chargées et que presque tous les poignards et épées avaient été maniés. Elle ne fut distraite de sa mortelle inquiétude que par l'extrême attention qu'elle donnait au soin de paraître ne se douter de rien. En se retirant à 10 heures du soir, elle ferma à clé la porte de sa chambre qui donnait dans l'antichambre de sa mère, puis elle se tint collée à sa fenêtre et couchée sur le sol, de façon à ne pouvoir pas être perçue du dehors. Qu'on juge de l'anxiété avec laquelle elle entendit sonner les heures. Il n'était plus question des reproches qu'elle se faisait souvent sur la rapidité avec laquelle elle s'était attachée à Jules, ce qui pouvait la rendre moins digne d'amour à ses yeux. Cette journée-là avança plus les affaires du jeune homme que 6 mois de constance et de protestation. « À quoi bon mentir ?» se disait Hélène. « Est-ce que je ne l'aime pas de toute mon âme ?» À 11h30, elle vit fort bien son père et son frère se placer en embuscade sur le grand balcon de pierre au-dessous de sa fenêtre. 2 minutes après que minuit eut sonné au couvent des Capucins, elle entendit fort bien aussi les pas de son amant qui s'arrêta sous le grand chêne. Elle remarqua avec joie que son père et son frère semblaient n'avoir rien entendu. Il fallait l'anxiété de l'amour pour distinguer un bruit aussi léger. « Maintenant, se dit-elle, ils vont me tuer. Mais il faut à tout prix qu'ils ne surprennent pas la lettre de ce soir. Ils persécuteraient à jamais ce pauvre Jules. » Elle fit un signe de croix, et se retenant d'une main au balcon de fer de sa fenêtre, elle se pencha au dehors, s'avançant autant que possible dans la rue. Un quart de minute ne s'était pas écoulé lorsque le bouquet, attaché comme de coutume à la longue canne, vint frapper sur son bras. Elle saisit le bouquet, mais en l'arrachant vivement à la canne sur l'extrémité de laquelle il était fixé, elle fit frapper cette canne contre le balcon en pierre. À l'instant partirent deux coups d'arquebuse suivis d'un silence parfait. Son frère Fabio, ne sachant pas trop dans l'obscurité si ce qui frappait violemment le balcon n'était pas une corde à l'aide de laquelle Jules descendait de chez sa sœur, avait fait feu sur son balcon. Le lendemain, elle trouva la marque de la balle qui s'était aplatie sur le fer. Le seigneur de Campirelli avait tiré dans la rue, au bas du balcon de pierre, car Jules avait fait quelque bruit en retenant la canne prête à tomber. Jules, de son côté, entendant du bruit au-dessus de sa tête, avait deviné ce qui allait suivre et s'était mis à l'abri sous la saillie du balcon. Fabio rechargea rapidement son arquebuse et, quoi que son père pût lui dire, courut au jardin de la maison, ouvrit sans bruit une petite porte qui donnait sur une rue voisine et ensuite s'en vint à pas de loup examiner un peu les gens qui se promenaient sous le balcon du palais. À ce moment, Jules, qui ce soir-là était bien accompagné, se trouvait à 20 pas de lui, collé contre un arbre. Hélène, penchée sur son balcon et tremblante pour son amant, entama aussitôt une conversation à très haute voix avec son frère qu'elle entendait dans la rue. Elle lui demanda s'il avait tué les voleurs. « Ne croyez pas que je sois dupe de votre rue scélérate, » lui cria celui-ci de la rue qui l'arpentait en tous sens. « Mais préparez vos larmes, je vais tuer l'insolent qui ose s'attaquer à votre fenêtre. » Ces paroles étaient à peine prononcées qu'Hélène entendit sa mère frapper à la porte de sa chambre. Hélène se hâta d'ouvrir en disant qu'elle ne concevait pas comment cette porte se trouvait fermée. « Oh, pas de comédie avec moi, mon cher ange, » lui dit sa mère. « Ton père est furieux et te tuera peut-être. Viens te placer avec moi dans mon lit. Et si tu as une lettre, donne-la-moi, je la cacherai. » Hélène lui dit, « Voilà le bouquet, la lettre est cachée entre les fleurs. » À peine la mère et la fille étaient-elles au lit, que le seigneur Campirelli rentra dans la chambre de sa femme. Il revenait de son oratoire, qu'il était allé visiter, et où il avait tout renversé. Ce qui frappa Hélène, c'est que son père, pâle comme un spectre, agissait avec lenteur et comme un homme qui a parfaitement pris son parti. Oh, « Je suis morte, » se dit Hélène. « Nous nous réjouissons d'avoir des enfants, » dit son père en passant près du lit de sa femme pour aller à la chambre de sa fille, tremblant de fureur, mais affectant un sang-froid parfait. « Oui, nous nous réjouissons d'avoir des enfants. Nous devrions répandre des larmes de sang plutôt quand ces enfants sont des filles. Grand Dieu, est-il bien possible? Leur légèreté peut enlever l'honneur à tel homme qui, depuis 60 ans, n'a pas donné la moindre prise sur lui. » En disant ces mots, il passa dans la chambre de sa fille. « Oh, je suis perdue !» dit Hélène à sa mère. « Les lettres sont sous le piédestal du crucifix, à côté de la fenêtre. » Aussitôt, la mère sauta hors du lit et courut après son mari. Elle se mit à lui crier les plus mauvaises raisons possibles, afin de faire éclater sa colère. Oh, elle y réussit complètement. Le vieillard devint furieux. Il brisait tout dans la chambre de sa fille. Mais la mère put enlever les lettres sans être aperçue. Une heure après, quand le seigneur de Campirealli fut rentré dans sa chambre à côté de celle de sa femme, et tout étant tranquille dans la maison, la mère dit à sa fille « Voilà tes lettres, je ne veux pas les lire, mais tu vois ce qu'elles ont failli nous coûter. À ta place, je les brûlerai. Adieu, embrasse-moi. » Hélène rentra dans sa chambre, fondant en larmes. Il lui semblait que, depuis ces paroles de sa mère, elle n'aimait plus Jules. Puis elle se prépara à brûler les lettres. Mais avant de les anéantir, elle ne put s'empêcher de les relire. Elle les relut tant et si bien que le soleil était déjà haut dans le ciel, quand enfin elle se détermina à suivre un conseil salutaire. Le lendemain, qui était un dimanche, Hélène s'achemina vers la paroisse avec sa mère. Par bonheur, son père ne les suivit pas. La première personne qu'elle aperçut dans l'église, ce fut Jules Branciforte. D'un regard, elle s'assura qu'il n'était point blessé. Son bonheur fut au comble. Les événements de la nuit étaient à mille lieues de sa mémoire. Elle avait préparé 5 ou 6 petits billets, tracés sur des chiffons de vieux papier souillés avec de la terre détrempée d'eau, et tels qu'on peut en trouver sur les dalles d'une église. Ces billets contenaient tous le même avertissement. Ils avaient tout découvert, excepté son nom, qu'il ne paraisse plus dans la rue, on viendra ici souvent. Hélène laissa tomber un de ses lambeaux de papier. Un regard avertit Jules, qui ramassa et disparut. En rentrant chez elle, une heure après, elle trouva sur le grand escalier du palais un fragment de papier qui attira ses regards par sa ressemblance exacte avec ceux dont elle s'était servie le matin. Elle s'en empara sans que sa mère elle-même s'aperçût de rien. Elle y lut « Dans 3 jours, il reviendra de Rome où il est forcé d'aller. On chantera en plein jour les jours de marché au milieu du tapage des paysans vers 10 heures. » Ce départ pour Rome parut singulier à Hélène. « Est-ce qu'il craint les coups d'arquebuse de mon frère ?» se disait-elle tristement. L'amour pardonne tout, excepté l'absence volontaire. C'est qu'elle est le pire des supplices. Au lieu de se passer dans une douce rêverie et d'être tout occupée à peser les raisons qu'on a d'aimer son amant, la vie est agitée par des doutes cruels. Mais après tout, puis-je croire qu'il ne m'aime plus? Se disait Hélène pendant les 3 longues journées que dura l'absence de Branciforte. Tout à coup, ses chagrins furent remplacés par une joie folle. Le 3e jour, elle le vit paraître en plein midi, se promenant dans la rue devant le palais de son père. Il avait des habillements neufs et presque magnifiques. Jamais la noblesse de sa démarche et la naïveté gaie et courageuse de sa physionomie n'avaient éclaté avec plus d'avantage. Jamais aussi, avant ce jour-là, on avait parlé si souvent dans Albano de la pauvreté de Jules. C'étaient les hommes, et surtout les jeunes gens, qui répétaient ce mot cruel. Les femmes, et surtout les jeunes filles, ne tarissaient pas en éloge de sa bonne mine. Jules passa toute la journée à se promener par la ville. Il semblait se dédommager des mois de réclusion auxquels sa pauvreté l'avait condamné. Comme il convient à un homme amoureux, Jules était bien armé sous sa tunique neuve. Outre sa dague et son poignard, il avait mis son giacco, sorte de gilet long en mailles de fil de fer, fort incommode à porter, mais qui guérissait ses cœurs italiens d'une triste maladie dont, en ce siècle-là, on éprouvait sans cesse les atteintes poignantes, je veux dire les, de la crainte d'être tué au détour de la rue par des ennemis qu'on se connaissait. Ce jour-là, Jules espérait entrevoir Hélène, et d'ailleurs, Il avait quelque répugnance à se trouver seul avec lui-même dans sa maison solitaire. Voici pourquoi. Ranucce, un ancien soldat de son père, après avoir fait 10 campagnes avec lui dans les troupes de divers condottieri, et en dernier lieu dans celle de Marco Sciarra, avait suivi son capitaine lorsque ses blessures forcèrent celui-ci à se retirer. Le capitaine Branciforte avait beaucoup de raisons pour ne pas vivre à Rome. Il était exposé à y rencontrer les fils d'hommes qu'il avait tués. Même dans Albano, il ne se souciait pas de se mettre tout à fait à la merci de l'autorité régulière. Au lieu d'acheter ou de louer une maison dans la ville, il aimait mieux en bâtir une située de façon à voir venir de loin les visiteurs. Il trouva dans les ruines d'Albe une position admirable. On pouvait, sans être aperçu par les visiteurs indiscrets, se réfugier dans la forêt où régnait son ancien ami et patron, le prince Fabrice Colonna. Le capitaine Branciforte se moquait fort de l'avenir de son fils. Lorsqu'il se retira du service, âgé de 50 ans seulement, mais criblé de blessures, il calcula qu'il pourrait vivre encore quelque 10 ans, et sa maison bâtie dépensa chaque année le dixième de ce qu'il avait amassé dans les pillages des villes et villages auxquels il avait eu l'honneur d'assister. Il acheta la vigne qui rendait 30 écus de rente à son fils pour répondre à la mauvaise plaisanterie d'un bourgeois d'Albano qui lui avait dit un jour qu'il disputait avec emportement sur les intérêts et l'honneur de la ville, qu'il appartenait en effet à un aussi riche propriétaire que lui de donner des conseils aux anciens Albano. Le capitaine acheta la vigne et annonça qu'il en achèterait bien d'autres. Puis, rencontrant le mauvais plaisant dans un lieu solitaire, il le tua d'un coup de pistolet. Après 8 années de ce genre de vie, le capitaine mourut. Son aide de camp, Ranucce, adorait Jules. Toutefois, fatigué de l'oisiveté, il reprit du service dans la troupe du prince Colonna. Souvent, il venait voir son fils, Jules, c'était le nom qu'il lui donnait, et à la veille d'un assaut périlleux que le prince devait soutenir dans sa forteresse de la Petrella, il avait emmené Jules combattre avec lui, et le voyant fort brave, « Il faut que tu sois fou, lui dit-il, et de plus bien dupe, pour vivre auprès d'Albano, comme le dernier le plus pauvre de ses habitants. Tandis qu'avec ce que je te vois faire et le nom de ton père, tu pourrais être parmi nous un brillant soldat d'aventure, et de plus faire ta fortune. » Jules fut tourmenté par ces paroles. Il savait le latin montré par un prêtre, mais son père s'était toujours moqué de tout ce que disait le prêtre au-delà du latin, et il n'avait absolument aucune instruction. En revanche, méprisé pour sa pauvreté, isolé dans sa maison solitaire, il s'était fait un certain bon sens, qui, par sa hardiesse, aurait étonné les savants. Par exemple, avant d'aimer Hélène, et sans savoir pourquoi, il adorait la guerre, mais il avait de la répugnance pour le pillage qui, aux yeux de son père, le capitaine et de Ranucce, était comme la petite pièce destinée à faire rire, qui suit la noble tragédie. Depuis qu'il aimait Hélène, ce bon sens acquis par ses réflexions solitaires faisait le supplice de Jules. Cette âme, si insouciante jadis, n'osait consulter personne sur ses doutes. Elle était remplie de passion et de misère. Que ne dirait pas le seigneur Campirealli s'il le savait, soldat d'aventure? Ce serait pour le coup qu'il lui adresserait des reproches fondés. Jules avait toujours compté sur le métier de soldat comme sur une ressource assurée pour le temps où il aurait dépensé le prix des chaînes d'or et autres bijoux qu'il avait trouvés dans la caisse de fer de son père. Si Jules n'avait aucun scrupule à enlever, lui si pauvre, l'affiche du riche seigneur de Campirealli, c'est qu'en ce temps-là, les pères disposaient de leurs biens après eux, comme bon leur semblait, et le seigneur de Campirealli pouvait fort bien laisser 1000 écus à sa fille pour toute fortune. Un autre problème tenait l'imagination de Jules profondément occupée. Premièrement, dans quelle ville établirait-il la jeune Hélène après l'avoir épousée et enlevée à son père? Deuxièmement, avec quel argent la ferait-il vivre? Lorsque le seigneur de Campirealli lui adressa le reproche sanglant auquel il avait été tellement sensible, Jules fut pendant 2 jours en proie à la rage et à la douleur la plus vive. Il ne pouvait se résoudre ni à tuer le vieillard insolent, ni à le laisser vivre. Il passait les nuits entières à pleurer. Enfin, il résolut de consulter Ranucci, le seul ami qu'il eut au monde. Mais cet ami le comprendrait-il? Ce fut en vain qu'il chercha Ranucci dans toute la forêt de la Fagiola. Il fut obligé d'aller sur la route de Naples, au-delà de Velletri, où Ranucci commandait une embuscade. Il y attendait en nombreuse compagnie Ruiz d'Avalos, le général espagnol, qui se rendait à Rome par terre sans se rappeler que naguère, en nombreuse compagnie, il avait parlé avec mépris des soldats d'aventure de la compagnie Colonna. Son aumônier lui rappela fort à propos cette petite circonstance, et Ruiz d'Avalos prit le parti de faire armer une barque et de venir à Rome par mer. Dès que le capitaine Ranucci eut entendu le récit de Jules, « Décris-moi exactement, lui dit-il, la personne de ce seigneur Campirealli, afin que son imprudence ne coûte pas la vie à quelque bon habitant d'Albano. Dès que l'affaire qui nous retient ici sera terminée, par oui ou par non, tu te rendras à Rome où tu auras soin de te montrer dans les hôtelleries et autres lieux publics à toutes les heures de la journée. Il ne faut pas que l'on puisse te soupçonner à cause de ton amour pour la fille. » Jules eut beaucoup de peine à calmer la colère de l'ancien compagnon de son père. Il fut même obligé de se fâcher. « Ah, mais crois-tu que je te demande ton épée ?» lui dit-il enfin. « Apparemment que moi aussi j'ai une épée. Je te demande un conseil sage. » Ranucci finissait tous ses discours par ces paroles. « Tu es jeune, tu n'as pas de blessure. L'insulte a été publique, or un homme déshonoré est méprisé, même des femmes. » Jules lui dit qu'il désirait réfléchir encore sur ce que voulait son cœur, et malgré les instances de Ranucci qui prétendait absolument qu'il prît part à l'attaque de l'escorte du général espagnol, où, disait-il, il y aurait de l'honneur à acquérir, sans compter les doublons, Jules revint seul à sa petite maison. C'est là que, la veille du jour où le seigneur de Campirealli lui tira un coup d'arquebuse, il avait reçu Ranucci et son caporal de retour des environs de Velletri. Ranucci employa la force pour voir la petite caisse de fer où son patron, le capitaine Branciforte, enfermait jadis les chaînes d'or et autres bijoux dont il ne jugeait pas à propos de dépenser la valeur aussitôt après une expédition. Ranucci y trouva 2 écus. « Je te conseille de te faire moine, dit-il à Jules. Tu en as toutes les vertus. L'amour de la pauvreté, en voici la preuve. L'humilité, tu te laisses vilipender en pleine rue par un Richard d'Albano. Il ne te manque plus que l'hypocrisie et la gourmandise. » Et Ranucci mit de force 50 doublons dans la cassette de fer. « Je te donne ma parole, dit-il à Jules, Que si d'ici à un mois, le seigneur Campirelli n'est pas enterré avec tous les honneurs dus à sa noblesse et à son opulence, mon caporal ici présent viendra avec 30 hommes démolir ta petite maison et brûler tes pauvres meubles. Il ne faut pas que le fils du capitaine Branciforte fasse une mauvaise figure en ce monde sous prétexte d'amour. Lorsque le seigneur de Campirelli et son fils tirèrent les 2 coups d'arquebuse, Ranucci et le caporal avaient pris position sous le balcon de pierre, et Jules eut toutes les peines du monde à les empêcher de tuer Fabio, ou du moins de l'enlever, lorsque celui-ci fit une sortie imprudente en passant par le jardin, comme nous l'avons raconté en son lieu. La raison qui calma Ranucci fut celle-ci. Il ne faut pas tuer un jeune homme qui peut devenir quelque chose et se rendre utile, tandis qu'il y a un vieux pêcheur plus coupable que lui et qui n'est plus bon qu'à enterrer. Le lendemain de cette aventure, Ranucci s'enfonça dans la forêt et Jules partit pour Rome. La joie qu'il eut d'acheter de beaux habits avec les doublons que Ranucci lui avait donnés était cruellement altérée par cette idée bien extraordinaire pour son siècle et qui annonçait les hautes destinées auxquelles il parvint dans la suite. Il se disait « Il faut qu'Hélène connaisse qui je suis. Tout autre homme de son âge et de son temps n'eût songé qu'à jouir de son amour et enlever Hélène, sans penser en aucune façon à ce qu'elle deviendrait 6 mois après, pas plus qu'à l'opinion qu'elle pourrait garder de lui. » Mais, de retour dans Albano, et l'après-midi même du jour où Jules étalait à tous les yeux les beaux habits qu'il avait rapportés de Rome, il sut par le vieux Scotti, son ami, que Fabio était sorti de la ville à cheval pour aller à 3 lieues de là à une terre que son père possédait dans la plaine, sur le bord de la mer. Plus tard, il vit le seigneur Campirelli prendre en compagnie de 2 prêtres le chemin de la magnifique allée de chênes verts qui couronne le bord du cratère au fond duquel s'étend le lac d'Albano. 10 minutes après, une vieille femme s'introduisait hardiment dans le palais de Campirelli sous prétexte de vendre de beaux fruits, et la première personne qu'elle rencontra fut la petite camériste Marietta, confidente intime de sa maîtresse Hélène, laquelle rougit jusqu'au blanc des yeux en recevant un beau bouquet. La lettre que cachait le bouquet était d'une longueur démesurée. Jules racontait tout ce qu'il avait éprouvé depuis la nuit des coups d'arquebuse, mais par une pudeur bien singulière, il n'osait pas avouer ce dont tout autre jeune homme de son temps eût été si fier, savoir qu'il était fils d'un capitaine célèbre par ses aventures et que lui-même avait déjà marqué par sa bravoure dans plus d'un combat. Il croyait toujours entendre les réflexions que ses faits inspiraient au vieux Campirelli. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, les jeunes filles plus voisines du bon sens républicain estimait beaucoup plus un homme pour ce qu'il avait fait lui-même que pour les richesses amassées par ses pères ou pour les actions célèbres de ceux-ci. Mais c'était surtout les jeunes filles du peuple qui avaient ces pensées. Celles qui appartenaient à la classe riche ou noble avaient peur des brigands et, comme il est naturel, tenaient en grande estime la noblesse et l'opulence. Jules finissait sa lettre par ces mots. Je ne sais si les habits convenables que j'ai rapportés de Rome vous auront fait oublier la cruelle injure qu'une personne que vous respectez m'adressa naguère à l'occasion de ma chétive apparence. J'ai pu me venger, je l'aurais dû, mon honneur le commandait. Je ne l'ai point fait en considération des larmes que ma vengeance aurait coûté à des yeux que j'adore. Ceci peut vous prouver, si pour mon malheur vous en doutiez encore, qu'on peut être très pauvre et avoir des sentiments nobles. Au reste, j'ai à vous révéler un secret terrible. Je n'aurais assurément aucune peine à le dire à toute autre femme, mais je ne sais pourquoi, je frémis en pensant à vous l'apprendre. Il peut détruire en un instant l'amour que vous avez pour moi. Aucune protestation ne me satisferait de votre part. Je veux lire dans vos yeux l'effet que produira cet aveu. Un de ces jours, à la tombée de la nuit, je vous verrai dans le jardin d'été situé derrière le palais. Ce jour-là, Fabio et votre père seront absents. Lorsque j'aurai acquis la certitude que malgré leur mépris pour un pauvre jeune homme mal vêtu, ils ne pourront nous enlever 3/4 d'heure ou 1 heure d'entretien, un homme paraîtra sous les fenêtres de votre palais qui fera voir aux enfants du pays un renard apprivoisé. Et plus tard, lorsque l'Ave Maria sonnera, vous entendrez tirer un coup d'arquebuse dans le lointain, et à ce moment, approchez-vous du mur de votre jardin, et si vous n'êtes pas seul, chantez. S'il y a du silence, votre esclave paraîtra tout tremblant à vos pieds et vous racontera des choses qui peut-être vous feront horreur. En attendant ce jour décisif et terrible pour moi, je ne me hasarderai plus à vous présenter de bouquet à minuit, mais vers les 2 heures de nuit, je passerai en chantant, et peut-être, placé au grand balcon de pierre, vous laisserez tomber une fleur cueillie par vous dans votre jardin. Ce sont peut-être les dernières marques d'affection que vous donnerez au malheureux Jules. 3 jours après, le père et le frère d'Hélène étaient allés à la cheval à la terre qu'ils possédaient sur le bord de la mer. Ils devaient en partir un peu avant le coucher du soleil, de façon à être de retour chez eux vers les 2 heures de nuit. Mais au moment de se mettre en route, non seulement leurs 2 chevaux, mais tous ceux qui étaient dans la ferme avaient disparu. Fort étonnés de ce vol audacieux, ils cherchèrent leurs chevaux, qu'on ne retrouva que le lendemain dans la forêt de haute futaie qui borde la mer. Les 2 Campirealli, père et fils, furent obligés de regagner Albano dans une voiture champêtre tirée par des bœufs. Ce soir-là, lorsque Jules fut au genou d'Hélène, il était presque tout à fait nuit, et la pauvre fille fut bien heureuse de cette obscurité. Elle paraissait pour la première fois devant cet homme qu'elle aimait tendrement, qui le savait fort bien, mais enfin auquel elle n'avait jamais parlé. Une remarque qu'elle fit lui rendit un peu de courage. Jules était plus pâle et plus tremblant qu'elle. Elle le voyait à ses genoux. « Oh, en vérité, je suis hors d'état de parler, » lui dit-il. Il y eut quelques instants apparemment fort heureux. Ils se regardaient, mais sans pouvoir articuler un mot, immobiles comme un groupe de marbre assez expressif. Jules était à genoux, tenant une main d'Hélène. Celle-ci, la tête penchée, le considérait avec attention. Jules savait bien que, suivant les conseils de ses amis, les jeunes débauchés de Rome, il aurait dû tenter quelque chose, mais il eut horreur de cette idée. Il fut réveillé de cet état d'extase et peut-être du plus vif bonheur que puisse donner l'amour par cette idée. Le temps s'envole rapidement. Les Campirealli s'approchent de leur palais. Alors il comprit qu'avec une âme scrupuleuse comme la sienne, il ne pouvait trouver de bonheur durable tant qu'il n'aurait fait à sa maîtresse cet aveu terrible qui eût semblé une si lourde sottise à ses amis de Rome. Je vous ai parlé d'un aveu que peut-être je ne devrais pas vous faire, dit-il enfin à Hélène. Jules devint fort pâle. Il ajouta avec peine et comme si la respiration lui manquait, « Peut-être je vais vous voir disparaître ces sentiments dont l'espérance fait ma vie. Vous me croyez pauvre, ce n'est pas tout. Je suis brigand. » et fils de brigand. À ces mots, Hélène, fille d'un homme riche et qui avait toutes les peurs de sa caste, sentit qu'elle allait se trouver mal. Elle craignit de tomber. Oui, mais quel chagrin ne sera-ce pas pour ce pauvre Jules, pensait-elle, il se croira méprisé. Il était à ses genoux. Pour ne pas tomber, elle s'appuya sur lui et peu après tomba dans ses bras comme sans connaissance. Comme on voit au XVIe siècle, on aimait l'exactitude dans les histoires d'amour. C'est que l'esprit ne jugeait pas ces histoires-là. L'imagination les sentait et la passion du lecteur s'identifiait avec celle des héros. Les deux manuscrits que nous suivons, et surtout celui qui présente quelques tournures de phrases particulières au dialecte florentin, donnent dans le plus grand détail l'histoire de tous les rendez-vous qui suivirent celui-ci. Le péril ôtait les remords à la jeune fille. Souvent, les périls furent extrêmes, mais ils ne firent qu'enflammer ces deux cœurs pour qui toutes les sensations provenant de leur amour étaient du bonheur. Plusieurs fois, Fabio et son père furent sur le point de les surprendre. Ils étaient furieux, se croyant bravés. Le bruit public leur apprenait que Jules était l'amant d'Hélène, et cependant ils ne pouvaient rien voir. Fabio, jeune homme impétueux et fier de sa naissance, proposait à son père de faire tuer Jules. « Mais tant qu'il sera dans ce monde, lui disait-il, les jours de ma sœur courent les plus grands dangers. Qui nous dit qu'au premier moment notre honneur ne nous obligera pas à tremper les mains dans le sang de cette obstinée? Elle est arrivée à ce point d'audace qu'elle ne nie plus son amour. Vous l'avez vu, ne répondre à vos reproches que par un silence morne, eh bien. Ce silence est l'arrêt de mort de Jules Branciforte. » Songez quel a été son père, répondait le seigneur de Campirelli. Assurément, il ne nous est pas difficile d'aller passer 6 mois à Rome, et pendant ce temps, ce Branciforte disparaîtra. Mais qui nous dit que son père, qui au milieu de tous ses crimes fut brave et généreux au point d'enrichir plusieurs de ses soldats et de rester pauvre lui-même, qui nous dit que son père n'a pas encore des amis, soit dans la compagnie du duc de Montemariano, soit dans la compagnie Colonna, qui occupe souvent les bois de la Fagiola, à une demi-lieue de chez nous. En ce cas, nous sommes tous massacrés sans rémission, vous, moi, et peut-être aussi votre malheureuse mère. » Ces entretiens du père et du fils, souvent renouvelés, n'était caché qu'en partie à Victoire Carafa, mère d'Hélène, et la mettait au désespoir. Le résultat des discussions entre Fabio et son père fut qu'il était inconvenant pour leur bonheur de souffrir paisiblement la continuation des bruits qui régnaient dans Albano. Puisqu'il n'était pas prudent de faire disparaître ce jeune Branciforte, qui tous les jours paraissait plus insolent et de plus... maintenant revêtu d'habits magnifiques, poussait la suffisance jusqu'à adresser la parole dans les lieux publics, soit à Fabio, soit au seigneur de Campirelli lui-même. Il y avait lieu de prendre l'un des deux partis suivants, ou peut-être même tous les deux. Il fallait que la famille entière revînt habiter Rome, et il fallait ramener Hélène au couvent de la Visitation de Castro, où elle resterait jusqu'à ce qu'on lui eût trouvé un parti convenable. Jamais Hélène n'avait avoué son amour à sa mère. La fille et la mère s'aimaient tendrement, elles passaient leur vie ensemble, et pourtant jamais un seul mot sur ce sujet, qui les intéressait presque également toutes les deux, n'avait été prononcé. Pour la première fois, le sujet presque unique de leurs pensées se trahit par des paroles, lorsque la mère fit entendre à sa fille qu'il était question de transporter à Rome l'établissement de la famille et peut-être même de la renvoyer passer quelques années au couvent de Castro. Cette conversation était imprudente de la part de Victoire Calafa, et ne peut être excusée que par la tendresse folle qu'elle avait pour sa fille. Hélène, éperdue d'amour, voulut prouver à son amant qu'elle n'avait pas honte de sa pauvreté et que sa confiance en son honneur était sans borne. « Qui le croirait ? » s'écrit l'auteur florentin. « Après tant de rendez-vous hardis et voisins d'une mort horrible, donnée dans le jardin et même une fois ou deux dans sa propre chambre, Hélène était pure. » Forte de sa vertu, elle proposa à son amant de sortir du palais vers minuit par le jardin et d'aller passer le reste de la nuit dans sa petite maison construite sur les ruines d'Albe à plus d'un quart d'heure de lieu de là. Ils se déguisèrent en moines de Saint-François. Hélène était d'une taille élancée, et ainsi vêtue semblait un jeune frère novice de 18 ou 20 ans. Ce qui est incroyable, et marque bien le doigt de Dieu, c'est que dans les trois chemins taillés dans le roc, et qui passe encore contre le mur du couvent des Capucins, Jules et sa maîtresse, déguisés en moines, rencontrèrent le seigneur de Campirealli et son fils Fabio, qui, suivi de 4 domestiques bien armés et précédés d'un page portant une torche allumée, revenait de Castel Gandolfo, bourg situé sur les bords du lac assez près de là. Pour laisser passer les deux amants, les Campirealli et leurs domestiques se placèrent à droite et à gauche de ce chemin taillé dans le roc et qui peut avoir 8 pieds de large. Combien n'eût-il pas été plus heureux pour Hélène d'être reconnue en ce moment ? Elle eût été tuée d'un coup de pistolet par son père ou son frère, et son supplice n'eût duré qu'un instant. Mais le ciel en avait ordonné autrement. Superi saliter visum. On ajoute encore une circonstance sur cette singulière rencontre, et que la signora de Campirealli, parvenue à une extrême vieillesse et presque centenaire, racontait encore quelquefois à Rome, devant des personnages graves qui, bien vieux eux-mêmes, me l'auraient dite lorsque mon insatiable curiosité les interrogeait sur ce sujet-là et sur bien d'autres. Fabio de Campirealli, qui était un jeune homme fier de son courage et plein de hauteur, remarquant que le moine le plus âgé ne saluait ni son père ni lui en passant si près d'eux, s'écria « Ah, voilà un fripon de moine bien fier! Dieu sait ce qu'il va faire hors du couvent, lui et son compagnon, à cette heure indue. Je ne sais ce qui me tient de lever leur capuchon, nous verrions leur mine. » À ces mots, Jules saisit sa dague sous sa robe de moine et se plaça entre Fabio et Hélène. En ce moment, il n'était pas à plus d'un pied de distance de Fabio. Mais le ciel en ordonna autrement et calma par un miracle la fureur de ces deux jeunes gens qui bientôt devaient se voir de si près. Dans le procès que par la suite on attenta à Hélène de Campirealli, on voulut présenter cette promenade nocturne comme une preuve de corruption. C'était le délire d'un jeune cœur enflammé d'un fol amour, mais ce cœur était pur.